Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinine, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 11 février 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Des cérémonies à travers le monde marquent le 45e anniversaire de la révolution islamique. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Iran entier célèbre l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Le président Raïssi rappelle le soutien indéfectible de l'Iran à la Palestine. Et puis, une attaque israélienne contre une maison fait 25 morts à Rafah. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les Iraniens de toutes couches de la société, dont des responsables de haut rang, ont participé à des marches ayant rassemblé beaucoup d'Iraniens dans différentes villes à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran. Les enfants, les adolescents et les jeunes ont eu une présence spectaculaire aux cérémonies marquant le 45e anniversaire de la révolution dès les petites heures du matin. L'interprétation d'hymnes et de programmes artistiques par des enfants et des adolescents sur le chemin de la marche a donné une atmosphère particulière à la cérémonie. Les célébrations se sont répandues dans tout le pays au cours des 10 derniers jours et ce dimanche 11 février, on est témoin du lancement d'un grand nombre de marches dans environ 1400 villes et 35 000 villages iraniens. La marche grandiose dans la capitale Téhéran a commencé à 9h30 et les points de départ étaient les mosquées de la ville. 12 itinéraires ont été identifiés pour ces marches, dont toutes ont pour destination finale la place emblématique Azadi, Liberté. Et le président de la République, Ibrahim Raïssi, a prononcé un discours à l'issue des marches. Le 11 février 1979, qui coïncide avec le 22 Bahman du calendrier persan, est le jour de la victoire de la révolution islamique en Iran, lorsque le peuple iranien a réussi à surmonter l'ère de l'hégémonie et de la tyrannie, à renverser la monarchie et à établir un gouvernement démocratique et islamique fondé sur la volonté du peuple. 7300 correspondants iraniens et étrangers participent à la couverture de l'événement. Le 45e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Le président iranien Seyed Ebrahim Raïssi a rappelé le soutien indéfectible de l'Iran au peuple palestinien, affirmant que la Palestine reste la priorité numéro un du monde musulman. Comme l'a dit le fondateur de la République islamique, l'imam Khomeini, que son âme repose au paradis. s'adressant ce dimanche 11 février à un rassemblement massif dans la capitale, Téhéran, à l'occasion du 45e anniversaire de la révolution islamique. Le président Raïssi a déclaré que les puissances occidentales avaient entrepris d'importantes tentatives pour dissuader l'Iran de soutenir la Palestine, mais qu'elles avaient lamentablement échoué. Les Occidentaux se sont efforcés d'amener l'Iran à cesser de défendre la Palestine et les idéaux de la révolution islamique, que ce soit par la guerre ou par un blocus économique et des sanctions. Ils ont envoyé à plusieurs reprises des messages disant « cessez de défendre la Palestine », a-t-il déclaré. Le président iranien a ajouté qu'aux 45 ans, après la victoire de la révolution, il est désormais prouvé que la République islamique et notre imam visionnaire avaient raison de dire que la Palestine est le premier enjeu du monde islamique et que la noble route doit être libérée. Dans le cadre de la continuité de son agression contre les Palestiniens, agression soutenue par les pays occidentaux, notamment les États-Unis, le régime sioniste a pris pour cible une maison où s'abritaient des personnes déplacées à l'est de Rafah, faisant 25 morts et quelques blessés. Selon la chaîne d'information Al Jazeera, les attaques ont eu lieu samedi 10 février à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et plus de 25 personnes ont perdu la vie. Dans un communiqué, le ministère de la Santé à Gaza a annoncé samedi soir que le bilan des morts depuis le déclenchement de la guerre s'était désormais élevé à plus de 28 000 personnes et plus de 68 blessés. Le régime sioniste a perpétré, dans les dernières 24 heures, 16 nouveaux crimes dans diverses zones de la bande de Gaza, avec pour bilan 117 morts et 152 blessés, indique le communiqué. Selon le ministère, des milliers de corps sont enfouis sous les décombres ou abandonnés sur le côté des routes, les secouristes ne pouvant les transférer ailleurs à cause des tirs continus des forces israéliennes. Sachez d'autre part que dans une nouvelle attaque directe contre les journalistes qui dévoilent les atrocités israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, le régime sioniste a détruit le bâtiment de l'institution médiatique Press House à l'ouest de la ville de Gaza. Citant les médias locaux, l'agence Anadolu a rapporté samedi 10 février que le retrait partiel ce jour-ci et à l'aube des forces israéliennes de plusieurs zones à l'ouest de la ville de Gaza avaient alors révélé la destruction du bâtiment de Press House, la maison de la presse. La Press House est une institution médiatique palestinienne indépendante à but non lucratif créée en 2013 à l'initiative d'un groupe de journalistes indépendants dans le but de promouvoir la liberté d'opinion et d'expression, de soutenir les médias indépendants et d'assurer une protection juridique aux journalistes en Palestine, comme indique sur son site Internet. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Des cérémonies à travers le monde marquent le 45e anniversaire de la révolution islamique. Des cérémonies commémoratives du 45e anniversaire de la révolution islamique ont eu lieu dans plusieurs pays. Les célébrations ont eu lieu au Vatican ainsi que dans les capitales de la Russie, de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Arménie, du Kazakhstan, du Tadjikistan, de l'Espagne, de la Hongrie, du Bangladesh, du Danemark et de l'Irlande. Chaque année, le 22 Bahman du calendrier iranien, qui correspond au 11 février, les Iraniens célèbrent la victoire de leur révolution et le renversement du régime Pahlavi, soutenu par les États-Unis lors d'un soulèvement populaire dirigé par l'Ayatollah Ruhollah Khomeini, le défunt fondateur charismatique de la révolution. Moins de deux mois après la victoire de la révolution islamique de 1979, les Iraniens ont participé à un référendum au cours duquel plus de 98% des électeurs éligibles ont voté oui à la République islamique en tant que nouveau système politique. De plus, un référendum a eu lieu en décembre 1979 au cours duquel 99,5% des électeurs ont approuvé la constitution de la République islamique d'Iran. Vendredi soir, lors d'une cérémonie au centre islamique de Moscou, l'ambassadeur d'Iran en Russie, Kazem Jalali, a déclaré qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis revendiquaient une hégémonie mondiale et cherchaient à maintenir un système unipolaire. Cependant, l'Iran s'est opposé à l'ordre mondial soutenu par les États-Unis et en a supporté les coups, a-t-il ajouté. Le pays a aujourd'hui trouvé de nombreux alliés sur son chemin, dont la Russie. Un événement similaire a eu lieu à l'ambassade iranienne à Pékin, en présence de diplomates et de représentants étrangers, ainsi que de personnalités médiatiques, culturelles et économiques. L'ambassadeur d'Iran en Chine, Mohsen Bakhtiar, a souligné les réalisations de la République islamique au cours des 45 dernières années dans divers domaines comme ceux de la science, de la culture et de l'économie. À Tokyo, de hauts responsables du gouvernement et du Parlement japonais, des ambassadeurs étrangers et des ressortissants iraniens ont participé à la cérémonie marquant l'anniversaire de la révolution islamique. Le ministre japonais de la transformation numérique, Taro Kono, était également présent à l'événement. Lors d'une cérémonie à l'hôtel Lotte à Séoul, l'ambassadeur d'Iran en Corée du Sud, Saïd Huzeishi, a déclaré que la nation et le gouvernement iranien avaient obtenu des brillants acquis dans divers domaines scientifiques, technologiques et économiques au cours des 4 dernières décennies. Il est remarquable que toutes ces réalisations aient été faites à une époque où le pays était confronté à de nombreuses conspirations et à de nombreux défis, notamment la guerre imposée dans les années 1980, les sanctions économiques et la pression maximale, a-t-il fait noter. Le vice-ministre arménien, Mehr Grigorian, était l'invité spécial de la cérémonie à Erevan organisée par l'ambassade d'Iran. Un groupe de responsables du gouvernement kazakh et de diplomates étrangers, ainsi que des représentants des partis politiques et des organisations sociales du Kazakhstan, ont assisté à une cérémonie à Astana. Lors de l'événement, le ministre kazakh du Commerce et de l'Intégration, Chakaliyov Arman, a décrit Téhéran comme un partenaire important et fiable pour Astana dans la région du Golfe Persique. L'ambassadeur iranien à Astana, Ali Akbar Jokar, a déclaré que le processus rapide de la tenue de deux référendums après la révolution islamique était un fait unique dans l'histoire. L'ambassadeur iranien au Tadjikistan, Ali Reza Haririyan, a déclaré « Dans le cadre de l'approche de politique étrangère indépendante de la République islamique et de l'utilisation intelligente des changements dans l'ordre mondial, l'Iran, en tant que puissance régionale, est devenu un acteur actif, indépendant et influent. L'hôtel Intercontinental de Madrid a accueilli une cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur iranien en Espagne, Reza Zabib, a rappelé les origines et fondements de la révolution islamique et a décrit les réalisations des 4 dernières décennies dans de multiples secteurs. L'événement à Budapest a réuni, entre autres, Laszlo Varadi, secrétaire d'État adjoint du ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, ainsi que des membres du groupe d'amitié Hongrie-Iran. Le Centre culturel et l'ambassade d'Iran à Dhaka, la capitale du Bangladesh, ont organisé un événement à l'université de Dhaka sur le thème « La révolution islamique en Iran et son nouveau message ». Le ministre bangladais chargé de la préservation des archives de guerre, Mohammad Haq, le chancelier de l'Université internationale Mustafa Ali Abbasi, le professeur Zia Rahman, doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université de Dhaka, étaient également présents en tant qu'invités spéciaux. Lors de la cérémonie à Copenhague, l'ambassadrice iranienne Afsaneh Nadipour a déclaré « Malgré toutes les conspirations et tous les obstacles, la nation iranienne a fait de nombreuses réalisations dans les domaines scientifiques, économiques et technologiques en s'appuyant sur ses capacités nationales ainsi que sur ses richesses naturelles, sa géographie unique et des ressources humaines efficaces. » Ces développements se sont cristallisés dans divers domaines, notamment l'autosuffisance en matière de production agricole et industrielle, ainsi que dans les nanotechnologies, l'énergie nucléaire pacifique, a-t-elle fait remarquer. Le chargé d'affaires iranien auprès de Dublin, Kazem Sharif Kazemi, a déclaré que le gouvernement et le peuple iranien sont reconnus comme une puissance indépendante à travers le monde à la lumière de la révolution islamique. L'ambassadeur iranien en poste au Vatican, Mohammad Hossein Mohtari, a déclaré que la constitution iranienne garantit les droits de tous les Iraniens et prévoit que le pays possède un système judiciaire équitable et que ce dernier assure la sécurité de tous les Iraniens. La République islamique a fait de grands progrès en matière des droits de l'homme en s'appuyant sur les normes islamiques et sur sa constitution, a-t-il ajouté.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans le débat, un programme proposé par Presse TV à partir des studios de la chaîne, ici dans la capitale iranienne Téhéran. Aujourd'hui nous proposons un sujet, le sujet concerne la situation des organisations internationales suite à ce qui se passe en Palestine et au Moyen-Orient depuis plusieurs dizaines d'années. Il s'avère que les institutions internationales se montrent complètement faillibles face à la situation, ce qui, selon Guterres, provoque et pourrait provoquer un chaos institutionnel et international. C'est le sujet de notre débat du jour. Nous vous proposons tout d'abord un reportage court afin de faire le point sur les propos tenus par Guterres et aussi sur la situation palestinienne et les organisations et les ONG. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités, dont une spécialiste de la situation syro-française. Tout de suite.
Les divisions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sur Gaza sont dangereuses, s'alarme Guterres. Le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre les divisions dangereuses au sein du Conseil de sécurité à propos de la guerre en cours menée par Israël dans la bande de Gaza, exprimant ses inquiétudes quant au fait que le monde entre dans une ère de chaos. Antonio Guterres est intervenu mercredi devant l'Assemblée générale des Nations unies dans un discours de mise en garde face à la profonde division du Conseil de sécurité sur la réponse à apporter à l'agression israélienne contre la bande de Gaza qui entre dans son cinquième mois. Le Conseil de sécurité des Nations unies, la principale plateforme pour les questions de paix mondiale, et dans l'impasse en raison de fissures géopolitiques, a regretté le patron de l'ONU. Et de poursuivre, ce n'est pas la première fois que cette instance est divisée, mais c'est la pire. Le dysfonctionnement actuel est plus profond et plus dangereux, a-t-il déclaré lors d'une réunion plénière de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui définit les priorités de l'organisation pour 2024. Guterres a ajouté que contrairement à la guerre froide, où des mécanismes bien établis aidaient à gérer les relations entre les superpuissances, ces mécanismes font défaut dans le monde multipolaire d'aujourd'hui. Notre monde entre dans une ère de chaos, une mêlée dangereuse et imprévisible en toute impunité, a-t-il prévenu. Le secrétaire général de l'ONU a également exhorté les dirigeants du monde à saisir l'occasion du sommet de l'avenir qui se tiendra en septembre pour façonner le multilatéralisme. pour les années à venir tout en appelant à une réforme du système financier international alors que les conflits s'intensifient à travers le monde. Guterres a en outre exprimé son inquiétude quant à l'intention d'Israël de concentrer sa guerre à Gaza sur la ville de Rafah dans le sud de l'enclave palestinienne. Je suis particulièrement alarmé par les informations selon lesquelles l'armée israélienne a l'intention de se concentrer ensuite sur Rafah, où des centaines de milliers de Palestiniens ont été contraints de se réfugier dans une recherche désespérée de sécurité. Une telle action augmenterait de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire aux conséquences régionales incalculables, a-t-il déclaré, soulignant qu'il est temps d'instaurer un cessez-le-feu humanitaire immédiat et la libération inconditionnelle de tous les prisonniers. Le régime israélien poursuit sa campagne génocidaire et a menacé de lancer une nouvelle attaque terrestre contre Rafah, où vivent désormais plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza, pour la plupart dans des tentes de fortune.
Notre reportage vient de se finir. Tout de suite, donc, nos deux invités de ce débat. Alors, Monsieur Bernard Cornu, militant, connaissant très bien la situation géo-énergétique de la région du Moyen-Orient. Monsieur Bernard Cornu, ravi de vous avoir avec nous.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui encore.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, notre deuxième invité, comme hier, d'ailleurs, si vous avez vu le débat d'hier, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau Madame Eissar Midani, écrivain, également experte dans les questions de la région du Moyen-Orient. Madame Midani, ravie également de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Bonjour à Monsieur Cornu et bonjour à tous vos téléspectateurs.
Alors, Monsieur Cornu, aujourd'hui, nous allons commencer par vous, si vous le permettez. Alors, une question. Que veut dire Monsieur Guterres concernant le monde semble rentrer dans un chaos? Qu'est-ce que signifie cette phrase, selon vous?
En tant que secrétaire général des Nations Unies, élu, choisi par les membres du Conseil de sécurité, il est désespéré de la situation d'incapacité actuelle du Conseil de sécurité à pouvoir prendre des décisions à cause du droit de veto que s'autorise chacun des membres permanents. Et sur les questions entre Israël et Palestine, ce sont évidemment toujours les États-Unis et parfois le Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de veto pour empêcher toute proposition juste qui aurait pu émaner des autres membres permanents ou non du Conseil de sécurité pour tenter de trouver des solutions. Des dizaines de résolutions ont été passées, mais aucune n'a été passée envers Israël sous le chapitre de la charte, le chapitre 7 de la charte des Nations Unies, des articles 37 à 51, je crois, qui permet de traiter toutes les atteintes à la paix et de permettre le retour à une situation juste et pacifique avec des actions, y compris militaires, du Conseil de sécurité, ayant recours aux forces disponibles mises à disposition par les différents États et sous le conseil et l'assistance d'un comité d'état-major des Nations Unies, ce qui n'a jamais été réuni d'ailleurs dans les rares fois où contre des pays arabes, l'Irak et la Libye, et aussi contre le mouvement terroriste Daesh, cette résolution sous chapitre 7 permettant le recours à la force a été utilisée. Donc il y a une incapacité révélée par le secrétaire général qui montre en fait les contradictions internes de la charte de San Francisco que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont rédigée, en fait surtout les Américains ont rédigé, des juristes américains, pour se mettre à l'abri en tant que puissance pour éviter que ce Conseil de sécurité, cet organe suprême d'action des Nations Unies puisse se retourner contre un des membres permanents. Et à l'époque, on était déjà en opposition entre les États-Unis et l'Empire soviétique, l'Union, l'URSS. La France est arrivée tardivement dans ce club des 4 et des 5 maintenant. Et en fait, ce propos du secrétaire général, de M. Guterres, montre qu'il faut réformer cette charte des Nations Unies, qu'il ne faut plus qu'il puisse y avoir deux poids et deux mesures. Il ne faut plus que les membres permanents puissent opposer leur veto systématique chaque fois qu'ils sont concernés ou qu'ils veulent soutenir des alliés face à des crimes qu'ils auraient commis. Voilà,
merci,
donc c'est
monsieur.
Cette nécessité qu'il faut souligner.
Merci, monsieur Bernard Cornuel. Alors, Mme Inani, il y avait deux situations pas tellement lointaines que nous avons vues où les organisations internationales ont agi. On pense notamment à l'arrestation de monsieur Gbagbo en Côte d'Ivoire. En fait, ce n'est même pas une arrestation puisqu'il a été enlevé chez lui dans sa villa. Si on rappelle les événements de l'époque, on a eu également la situation avec Kadhafi où aucune preuve n'a été apportée concernant des manifestations dans les rues de la capitale libyenne. Et par la suite, les journalistes vont avoir la preuve qu'il n'y avait personne dans les rues. Et pourtant, il y a eu une intervention internationale et notamment occidentale. Madame Midani, nous savons que la Palestine, c'est 75 ans. Mais honnêtement, il n'y a pas que la situation palestinienne qui a eu des injustices dans la région. Il faut rappeler le Yémen, il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut rappeler l'Irak, la Syrie. Ce sont des pays qui vivent l'injustice tous les jours. Quand on pense à la loi César, qui est extrêmement humiliante pour les Syriens qui se sont battus contre des terroristes qui ont été, dont la haine est présente en Europe, puisque ces mêmes terroristes ont attaqué leur territoire. Madame Midani, quand on voit la situation et surtout le terme choisi par M. Guterres, monde de chaos, est-ce que c'est aussi une manière pour ces pays, à l'heure actuelle où la situation économique des Européens et des Américains est moins stable, une manière également de montrer que cette fois, on ne va pas se laisser faire?
Écoutez, je l'espère que cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. La question, c'est qu'effectivement, cette incapacité des instances internationales vient de la domination totale de pays qui sont, qui sont pour l'hégémonisme et qui ont toujours mis main basse sur ces institutions. Et ce sont elles-mêmes, quand c'est eux qui commettent les crimes, eh ben, ils sont en impunité totale. Vous avez bien souligné le cas de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, de la Côte d'Ivoire, etc. Quand c'est un des pays occidentaux, ce sont ces pays de l'OTAN qui dominent l'instance internationale, l'ONU, et puis aussi toutes les instances qui en découlent, malheureusement. On n'a jamais vu, par exemple, Bush traîner à la Cour pénale internationale. On n'a jamais vu, alors qu'il y a eu des génocides qui ont été commis. Et en plus, je voudrais rappeler quand même que les États-Unis sont les seuls à avoir balancé des bombes nucléaires sur le Japon et à ajouter à tout le génocide qu'ils ont commis au Vietnam, etc. Donc, en fait, quand il s'agit des États-Unis, c'est impunité totale. Les États-Unis ou ses alliés. Alors aujourd'hui, on sait qu'Israël est vraiment le fruit et la création même des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, suite à la Deuxième Guerre mondiale, la création aussi de l'ONU, puisque l'ONU a été a reconnu cet État qui était vraiment créé sur les massacres des Palestiniens.
Madame Midani, la différence ici, c'est que le peuple ne soutient pas les démarches le peuple, l'entité, les membres de l'entité sioniste ne suivent pas les démarches de Netanyahou. Il est dit de partout que Netanyahou n'a pas le soutien du peuple, que même les militaires, il y a beaucoup de zones militaires qui ne soutiennent pas les démarches de cet homme. Quand on voit que Gbagbo, sur des suspicions, puisque finalement, devant la cour, aucune preuve va être apportée, il a été enlevé directement chez lui, je veux dire, ça pourrait déjà arrêter le génocide actuel rien que d'enlever Netanyahou et de le présenter devant une cour. Juste cette action-là pourrait sauver énormément de vies. Et nous voyons... nous voyons des pays s'opposer, présenter ça devant la Cour de justice internationale. Nous voyons des pays qui ne veulent plus dire d'accord à l'influence occidentale, parce que finalement tout se fait sous le bureau. C'est-à-dire, ça ne se fait pas de manière officielle à l'ONU, les influences des pays, est-ce qu'ils vont voter oui ou est-ce qu'ils vont voter non. Mais à l'heure actuelle, beaucoup de pays me présentent en disant « Non, nous ne voterons pas ce que vous voulez, même si on pourrait gagner ceci ou on pourrait gagner cela ». Est-ce que c'est parce que les pays savent que c'est le bon moment pour faire venir leur souveraineté de manière plus importante?
Je pense quand même que c'est important que les pays fassent entendre leur voix. Aujourd'hui, les pays qui sont opposés fassent entendre leur voix, que les peuples fassent entendre leur voix. Mais je voudrais quand même dire qu'il ne s'agit pas de Netanyahou. Il faut savoir quand même que l'État israélien a fait l'objet d'une centaine de motions et de décisions de l'ONU qui n'ont jamais été appliquées et qu'il y a eu plus de 150 vétos des Américains dans l'Assemblée générale de l'ONU qui interdisait effectivement toute mesure contre cet État voyou d'Israël. Qui s'assoit sur toutes les lois internationales, qui fait fi de toutes les règles de la guerre et toutes les règles du droit humain international et du droit humain et de la charte de l'ONU. Donc, je crois qu'il faut aussi, ne pas trop... personnaliser le débat en disant c'est Netanyahou qui est aujourd'hui le criminel. C'est tout l'État sioniste qui est criminel et surtout cette guerre, elle est menée aussi par les Américains. Les Américains, ils disent aujourd'hui, Biden, il dit « Ah, il faut arrêter de… » Il ne dit pas « Il faut arrêter, il faut quand même tuer moins de civils ». N'empêche que les États-Unis sont complètement contre l'arrêt de cette guerre, de ce génocide. Ils refusent à plusieurs reprises toutes les pressions internationales, tous les pays aussi qui veulent arrêter, y compris d'ailleurs l'ONU. Et c'est les États-Unis aussi qui font veto à chaque fois contre cette décision d'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien. Donc, il est très important quand même de voir que cette réforme, elle est obligatoire, mais qu'il faut remettre aussi les États-Unis au même rang que les autres pays et arrêter cette histoire de veto américain qui est privilégié, qui arrête tout. Donc, ou alors donner le veto à d'autres pays aussi.
Alors, Monsieur Cornu, pour revenir vers vous, je m'étais amusée la semaine hier à comparer cette situation à l'époque du président Nasser, qui a beaucoup été aimé dans le monde maghrébin et arabe à cause de l'époque de Nasser, où il a notamment arrêté le canal du Suez, l'utilisation du canal du Suez, pas très longtemps, parce que la pression a eu raison de lui. Mais cette histoire avec les Houthis, forcément, fait penser à ce canal de Suez. On n'aurait pas pu rêver, à l'époque du président Nasser, de pouvoir maintenir cette pression sur un canal extrêmement important dans une région et qui a une relation directe avec le monde international, que ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je pense que autant on peut voir la phrase de M. Guterres comme étant très pessimiste et très négativiste en disant « il faut cette réforme », etc. Mais de l'autre côté, on sent, nous qui aimons apprécier parler de la souveraineté, du droit à la souveraineté, on voit des pays tout simplement, oui, ce chaos est provoqué par quoi? Parce que cette souveraineté, elle a été bafouée tellement longtemps à cause des influences, à cause de l'économie, à cause de ceci, des sanctions. Mais là, l'influence, elle est cassée. Il n'y a plus d'influence. Quand on est face à l'ONU, on vient avec nos souverainetés, on vient avec notre décision souveraine et on voit ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient qui touche finalement le monde entier parce qu'on rappelle que les ports, le trafic naval, même si les Houthis disent que tout va bien, il est quand même sous dominance. Ils doivent accepter la souveraineté propre du Yémen, chose qui n'avait jamais été entendue, même quand on se rappelle de cette crise du canal de Suez à l'époque du président Nasser.
Oui, vous avez évoqué la révolte de certains certains des Israéliens eux-mêmes contre la politique de destruction de Netanyahou, mais il y a aussi dans d'autres pays des révoltes et qui amèneront sans doute peut-être à des changements de politique, parce que en France, par exemple, il y a 4 pétitions, la pétition du personnel de santé, médecins, infirmières, chirurgiens, anesthésistes. Il y a une pétition des académiciens, des gens, des chercheurs, plus de 2000 personnes, celle des médecins, plus de 1000, et personnel de santé, plus de 1000 personnes, aussi les enseignants du secondaire. Donc, il y a, et aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, il y a eu des blocages de livraison pour les armes. Donc, il y a des soulèvements partout de gens qui sont offusqués par ce massacre qui se déroule sous les yeux des gens, les destructions
avec leur argent.
De 400 000 logements.
Sous les yeux des gens et avec leur argent, hein, puisqu'on rappelle que c'est de l'argent public.
Tout à fait, mais hélas, dans un pays comme la France, la politique étrangère est dans la main exclusive du président de la République. Donc en fait, à l'Assemblée, il y a des propos très durs contre la politique du gouvernement français actuel, notamment par ceux des députés et sénateurs ou sénatrices qui sont allés sur place à Rafah, évidemment sans pouvoir rentrer à Gaza, mais ils ont protesté très clairement contre la politique du gouvernement, l'accusant de complicité avec l'action criminelle du gouvernement israélien, de l'armée israélienne. Donc en fait, mais ceci sera poussé, je pense, jusqu'aux élections, parce que cette position courageuse aux États-Unis, en France ou ailleurs, de gens qui se révoltent contre cette politique de deux poids et deux mesures, contre cette politique criminelle d'un État soutenu par l'État le plus puissant au monde au niveau financier et économique et qui en abuse, je pense qu'au niveau des élections en Europe, dans quelques pays, cela se verra et que nous pourrons enfin avoir des réformes qui nous permettraient à nous, peuple, de donner notre avis et par nos représentants dans les assemblées sur la politique étrangère pour définitivement éviter ce deux poids et deux mesures, avoir une justice globale, universelle, qui puisse traiter, amener en justice les chefs d'État dès qu'ils commettent de tels crimes d'agression qu'on a vu envers l'Irak en 2003 et ces jours-ci, ces mesures terribles de l'armée de l'État israélien envers la population palestinienne, que ce soit à Gaza où c'est terrible, ou que ce soit en Cisjordanie où de très nombreuses personnes ont été emprisonnées, assassinées par l'armée israélienne et aussi par les colons.
D'ailleurs, il y a eu une attaque en Cisjordanie aujourd'hui ou hier. Madame Hidani, qu'est-ce que vous pensez donc des propos tenus concernant la mer Rouge et l'influence et le blocage en mer Rouge, qui est finalement une souveraineté propre des Yéménites, et de l'équivalence historique qu'il y a eu à l'époque sur le canal de Suez?
Écoutez, l'intervention des Yéménites a complètement sauvegardé et gardé la sécurité de la navigation dans la mer Rouge, sauf pour les Israéliens ou les cargos qui vont en Israël et qui en sortent. Ce sont les Américains qui ont porté atteinte effectivement à la navigation en mer Rouge, parce qu'ils refusant toujours de l'agression à Gaza, ils ont pris parti contre les Yéménites, et ce n'est pas seulement les Houthis, c'est le peuple du Yémen et l'État du Yémen qu'ils ont pris position, et ils ont commencé à attaquer le Yémen, en fait, avec les Britanniques, à bombarder le Yémen, etc.
Oui,
et ce sont les Américains et les Britanniques qui ont introduit... introduit l'insécurité en mer Rouge.
Oui, vous avez raison. Mais je pense que les Américains et les Anglais, pensaient qu'en arrivant avec leurs gros bateaux, avec cette publicité qui ont toujours existé grâce aux films, grâce aux médias, etc., ils s'attendaient à une fuite certainement des Yéménites et de toute personne soutenant.
Mais ils ont bombardé à plusieurs reprises le Yémen, quand même. Ils continuent à bombarder le Yémen nuit et jour, là. Les Britanniques et les Américains. Ce n'est pas seulement par la propagande, en fait. Mais c'est vrai que par la propagande, ils arrivent à convaincre le monde que c'est le Yémen qui a perturbé la navigation en mer Rouge, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ils ont opéré un blocus de tout ce qui va vers Israël pour faire pression sur Israël, et arrêter le massacre à Gaza.
Merci.
Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, excusez-moi, deuxième point, il est important aussi de voir que ces lois et ces règles de la navigation, elles sont aussi, elles doivent être défendues par l'ONU et que là-dessus, l'ONU, c'est pareil, elle n'a rien pu faire. Par contre, il y a des points qui sont très positifs, notamment ceux-là, celui du rapport de la Cour internationale de justice, qui d'ailleurs continue à constater que malgré son rapport, les Israéliens continuent à commettre des massacres, continuent à faire mourir de faim la population palestinienne, continuent à arrêter aussi les Palestiniens de manière arbitraire, aussi bien en Cisjordanie, et continuent à persécuter les prisonniers. Donc
merci,
tout ça va à l'encontre effectivement d'Israël et qui va plaider contre elle, les États-Unis et les pays qui soutiennent Israël.
Merci
à vous, parce que
désolée.
Je pense aussi qu'il est important de parler du fait que le Nicaragua a traduit
oui.
aussi les pays
tout
complices d'Israël.
Il s'est rajouté
la Cour de justice.
À l'Afrique
voilà.
du Sud, exactement. Elle s'est rajoutée à l'Afrique du Sud et on attend la décision de la CIJ pour savoir si elle peut le faire. Je vous remercie, remercie nos chers invités, M. Bernard Cornu et Mme Aïssar Milani, nos deux experts du jour pour le débat. C'est aussi que se finit notre débat concernant donc les propos tenus par M. Guterres concernant le danger d'un chaos international dans cet aspect de la guerre en Palestine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis pour un autre sujet du débat, toujours ici, dans les studios présents dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonsoir et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'Afrique Économie. En ce dimanche 11 février 2024, nous allons passer en revue l'actualité africaine dans le domaine économique durant la semaine passée. Restez avec nous.
Burkina Faso, le Centre international pour le développement des engrais lance un projet de 1,5 million de dollars. En Afrique subsaharienne, l'utilisation des engrais reste à un niveau encore relativement bas par rapport au reste du monde et il constitue un des principaux facteurs qui limitent la production agricole. Au Burkina Faso, le Centre international pour le développement des engrais a lancé le 7 février un projet visant à améliorer l'accès et l'utilisation d'engrais par les petits exploitants agricoles. D'un coût total de 1,46 million de dollars, il est financé par l'initiative Sustain Africa, mise en œuvre par le Partenariat africain pour les engrais. Selon les informations relayées par le quotidien local Le Faso.net, cette opération sera réalisée avec la collaboration du ministère de l'Agriculture, de la Société d'exploitation des phosphates du Burkina ou encore de l'Association des grossistes détaillants des intrants agricoles au Burkina Faso. Les engrais seront vendus à prix réduit en tenant compte des charges de production et de l'implication des différents acteurs. En Zambie, Bayport Financial obtient 10 millions de dollars de Norfund pour renforcer son activité de prêt aux PME. Après l'octroi en 2023 d'un premier prêt de 8,9 millions de dollars à la structure de microfinance zambienne Bayport Financial Service, le Norvégien Norfund renforce son partenariat avec cet établissement. La structure de microfinance zambienne Bayport Financial Service a conclu le mardi 6 février 2024 un accord de prêt d'un montant de 10 millions de dollars avec l'Agence norvégienne de financement du développement. La facilité de crédit permettra à la filiale, le holding mauricienne Bayport Management Ltd, d'étendre ses opérations de prêt à l'endroit de petites et moyennes entreprises zambiennes. Bayport Financial Service Zambia facilitera également des investissements dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé et des travaux de construction. Le prêt accordé à Bayport Zambia permettra de soutenir des activités parallèles dans lesquelles de nombreuses personnes s'engagent en Zambie pour subvenir aux besoins de leur famille, a indiqué Cathy Aouchan-Chang, gestionnaire d'investissement chez Norfund. La BAD et le HCR en soutien aux personnes déplacées de force au Soudan du Sud. Lors d'une visite conjointe au Soudan du Sud, la Banque africaine de développement et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se sont engagés à renforcer leur collaboration en faveur des personnes déplacées et des communautés d'accueil. Depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 300 jours, plus d'un demi-million de personnes sont arrivées au Soudan du Sud, pour la plupart des Sud-Soudanais qui vivaient au Soudan depuis des décennies. Nombre d'entre eux retournent dans des villages qui ne disposent d'aucun service où il n'y a pas d'aide humanitaire disponible. Les réfugiés soudanais sont transférés dans des camps de réfugiés où les ressources sont déjà fortement sollicitées. Raouf Mazou, commissaire assistant chargé des opérations du HCR, et Marie-Laure Akin-Oulbadé, vice-présidente de la Banque africaine de développement chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services, ont achevé cette semaine une visite conjointe au Soudan du Sud. Près de 62% des acteurs internationaux du secteur de la logistique prévoient d'investir en Afrique en 2024. L'intérêt grandissant des opérateurs logistiques internationaux pour l'Afrique intervient alors que le continent est le théâtre d'une compétition féroce entre les grandes puissances économiques mondiales qui s'efforcent d'y augmenter leur engagement et leur investissement. 61,6% des acteurs internationaux du secteur de la logistique envisagent d'investir en Afrique cette année, malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques et des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, selon un rapport publié le mardi 6 février 2024 par le groupe logistique cobaïtien Agility et le cabinet de recherche spécialisé Transport Intelligence. Intitulé Agility Emerging Markets Logistics Index 2024, le rapport comprend une enquête réalisée auprès de 830 dirigeants d'entreprises logistiques internationales. 47,4% des répondants précisent qu'ils comptent réaliser des investissements supplémentaires en Afrique où ils sont déjà présents, alors que 14,2% prévoient de réaliser leur premier investissement sur le continent. Nuran Wireless négocie un prêt de 15 millions de dollars pour financer la construction de 800 sites supplémentaires en Afrique. Neuron ambitionne de construire 10 000 sites télécoms pour améliorer la couverture télécom en Afrique, où 43% de la population n'a pas accès aux services mobiles, selon la GSMA. La société a déjà 4 600 sites télécoms sous contrat sur le continent. Le fournisseur d'infrastructures télécom canadien, Neuron Wireless, est en bonne voie pour obtenir un prêt de 15 millions de dollars pour financer la construction de 800 sites télécoms supplémentaires en Afrique. La société a annoncé le mardi 6 février avoir reçu à cet effet une lettre d'intention non contraignante d'une institution financière de développement dont l'identité n'a pas été dévoilée. Cette lettre d'intention est soumise à l'achèvement satisfaisant d'un processus de diligence raisonnable. En Afrique du Sud, Huawei construit un réseau de fibres optiques et 800 gigs pour MTN. En Afrique du Sud, MTN s'active pour la modernisation et l'extension de son réseau. La société a signé en février 2023 un accord avec Nokia pour l'extension de son réseau 5G entre autres. La société télécom sud-africaine MTN South Africa s'est associée à la société technologique chinoise Huawei pour déployer un réseau de fibre optique 800 gigs. Le réseau est composé de câbles à fibre optique pouvant transporter des données à des débits allant jusqu'à 800 gigabits par seconde. Il est doté d'une capacité totale de 48 et relie le centre de données de l'opérateur télécom à Johannesburg, Durban et Cape Town. Cette dorsale nationale répondra aux besoins croissants de MTN en matière de capacité pour ses services commerciaux basés sur l'information en nuage, ses réseaux domestiques à large bande améliorée et ses réseaux sans fil. Il permet également d'optimiser le coût par bit et d'améliorer l'efficacité énergétique, explique Huawei.
Thank you.